présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Et pourquoi il s'est retrouvé de plus en plus seul. Puis, plus rien. Au milieu d'un décor de cadavres, de blessés, les autres ont disparu. Et voit arriver les camions pour prendre les cadavres et les blessés. Il s'arrête de tirer. Il tirait machinalement comme un fou au hasard. C'est un décor de fin du monde. Thank you. de la fumée, des ruines, des milliers de gens couchés sur le sol, morts ou blessés, des têtes, des pattes, des jambes, des corps, du sol, le sang, la puanteur, à cause de la chaleur. La puanteur vient très vite. Des camions sortent des hommes qui prennent les morts ou les blessés pour les mettre au camion. De blessés. On entend les oiseaux de proie qui tournent dans le ciel, qui tournent dans le ciel. Parce qu'ils ont senti la nourriture. On entend le bruit des oiseaux de proie. De cet enfer, je ne sais plus où il en est. Un soldat qui ramasse ses corps pour une bombe. Que blessé. Non, ne lui dis pas. Eh bien, va retourner. Où est-elle? Tu dis, ils sont tous là-bas. Et Didier y va. Les camps. Les soldats sont couchés à terre, épuisés, sales, ont du sang sur leur visage et vêtements. Certains se lavent, nus en s'aspergeant. D'un broc d'eau. Les autres mangent un morceau. Tout semble épuisé, il ne parle pas. Enfin, Didier retrouve sa compagnie. Il est épuisé. Demande une gourde d'eau et, pour se laver, voit qu'il a du sang de partout. Ça le dégoûte. Puis, après s'être lavé, il va manger un morceau. À la cantine. C'est un camion où un soldat prépare les repas pontois. Les repas pontois sont déjà tout préparés, il ne reste plus qu'à les réchauffer pour certains et puis les autres à les refroidir. Après avoir mangé et puis épuisé, Didier est allé se coucher. Certains sont allés voir les putes de Paris. Didier se demande ce qu'il fait dans cet enfer. Les jours passent, jours de bataille passent, et petit à petit, Didier s'habitue à tout ça, à se battre, à la fumée, aux cadavres. Il a de moins en moins peur, parce que plus sûr de lui, et parce qu'il sait faire, prendre des balles sur les blessés, ou les morts, et ne plus avoir peur des cadavres. L'ennemi lui fait moins peur, parce qu'il les voit tomber. Et lorsqu'il voit que les autres commencent à se replier, il en fait autant. Il ne reste plus sur les champs de bataille seul au milieu des morts et des blessés. Il sait mieux connaître le danger et s'en protéger. Les jours passent. La première fois qu'il a eu un corps à corps avec l'ennemi, il a été surpris. Il s'est trouvé devant un ennemi avec une hache à la main qui lui fait face, et lui a perdu son fusil dans la mêlée. Il sort son poignard, les deux hommes se font face. Didier a très peur. Il se regarde, les yeux dans les yeux, s'observe, tourne, se tourne, tourne. À force de faire attention, la force devient pour Didier un plaisir, un jeu. Pour cela,
je dois prévenir le camp qu'il va être attaqué.
Qui gagnera?
Robin est prisonnière, je voulais la sauver, il y a trop de vies qui sont en jeu.
Le jeu prend plus de place que la peur. L'excitation grandit. L'autre hésite. Il lui donne un coup de hache. Didier recule. Fait des bonds pour éviter le coup de hache. Il se sent. Il ne sent plus la mort. Mais son excitation, l'excitation du jeu. Didier passe son poignard d'une main à l'autre. Déconcentré sur l'adversaire. Puis, Didier recule un peu et fait un geste pour se retourner et faire tomber à terre son adversaire. L'adversaire a perdu sa hache. Didier est sur lui. Prêt à cogner. Il sait qu'il doit lui enfoncer le poignard dans son corps. L'autre a les yeux hagards et terrifiés. Et le maintient bien avec ses jambes sous lui. Il se redresse.
Les munitions sont séantes.
Gardant ses jambes sur lui, et d'un geste mystérieux, il enfonce son poignard dans la poitrine. L'autre est mort. Le sang a giflé sur Didier, mais il est victorieux. Oui, Didier est victorieux, il est fier. Mais il se sent mieux. Il se sent fort et prêt à recommencer. il a fait une fois, il est arrivé une fois, donc il peut recommencer à tuer avec son poignard. Didier est devenu un bon guerrier, en s'adaptant au milieu d'un champ de bataille, attachant se battre. Il est fier, il se dit qu'il est un homme. Désormais, il se bat comme un lion pour gagner, tuer le plus possible. Il y arrive. Il y arrive parce qu'il a vaincu sa peur qui était remplacée par une jouissance. Les jours passent. Malgré les morts, l'on fait du surplace. Didier est devenu sûr de lui. Il se dit qu'il faut faire avancer les choses. Mais comment? Il se dit qu'il faut faire que pour la ville de Troyes. Entrer dans la ville, ouvrir les portes à l'armée. Il se dit, c'est moi qui le ferai. Mais comment entrer dans cette ville?
Je dois prévenir le camp qui va être.
Il a une idée. Il va se mettre sur le char et entrer comme ça dans la ville. Le lendemain, il cherche les chars ennemis, en voit qui sont près de la ville, et se dit qu'ils doivent être là parce qu'on doit les protéger, donc ils ne bougeront pas de leur coin. Lui non plus ne bougera pas. Et le soir, ils sont entrés. Lui en rentrera avec les autres. Les choses se passent comme il a prévu. Reste près de l'entrée de la ville. Didier décide, durant toute la bataille, de surveiller un char. Et dès qu'il voit que la bataille va se terminer, pour aujourd'hui, il s'approchera aux intentions du char. Bientôt la fin de la bataille. Il s'approche en faisant très attention du char et en rampant pour ne pas être vu. De toute façon, à la fin de chaque bataille, il y a tellement de blessés, de tas d'hommes, qu'on ne voit rien. On ne voit pas un homme rampé. Surtout parce qu'il y a de la fumée. Il arrive sans encombre devant le char. Se faufile. Derrière, et une fois derrière, glisse dessous le char, le monstre. Il est assez rehaussé parce que les roues sont très hautes. Il y a de la place en hauteur comme en longueur. Sous le char, il y a des barres de fer qui tiennent les roues, etc. Elles sont grosses et un espace entre elles. Un espace entre elles et le dessous du char. Et ça grippe au bar avec ses deux mains. Il met ses pieds, s'accroche ses pieds au bar pour rester en hauteur. Son corps ne touche plus le sol. Il ne peut être vu. Il est bien tenu à ses bars. Il attend encore le bruit de la bataille. Puis, petit à petit, ça diminue. Le calme de mort, le début de la fin des hostilités. De la journée. Puis, il entend un bruit sourd et tremble de tout son corps. C'est le char qui se met en route. Ça craque de partout, ça secoue, il y a de la poussière. Au bout d'un moment, le monstre s'arrête. Bruit de ferraille, de grincement. Le char se remet en route. Puis s'arrête. Bruit de ferraille. L'idée se dit, ce doit être la porte de la ville. Et le char se remet en route. Et se dit, voilà, je suis dans la ville. Le char continue à rouler, puis s'arrête. Il entend des voix, des gens près des chars. Pas. Se sont éloignés. Il y attend. Il fait nuit. Il attend. Il n'entend plus le bruit bout d'un moment, il décide, c'est de sortir de sa cachette. Fais bien attention, ne vois personne. Alors, en évitant de faire du bruit, il sort de dessous le char. Il est plein de poussière. Regarde autour de lui. Vois que le char s'est arrêté sur une place entourée de maisons. Il fait sombre, ne voit rien. Vite, il décide, mais sans courir, de traverser cette place. Longer maison pour pas être vu. Heureusement qu'il y a le couvre-feu à cause des avions. Comme ça, il ne peut pas être vu. Prends une ruelle. Une ruelle au hasard. Il ne sait plus où sont les enceintes de la ville. La ruelle est étroite, sombre. Il la suit. Elle tourne. Il continue à marcher. Il y a tout un côté de la rue, un grand mur, qui doit être celui d'une propriété. Tout d'un coup, Didier voit deux soldats armés discuter, le dos au mur. Vite, ils se cachent derrière un renfoncement. Tremble de peur. Et ce traître idiot ne peut plus ni avancer ni reculer. Il risque d'être vu. En se plaquant, il voit qu'il y a une poignée. Il se retourne et dans le renfoncement, il y a une porte. Il tourne la poignée. Elle s'ouvre. Voit que c'est un jardin. Vite, il entre. Là, il voit que c'est un jardin privé. Il y a un préau avec des colonnes tout le long et une maison. Une grande maison. Il se dit qu'il ne peut pas rester là. Il décide d'aller vers les soldats. Voir s'ils ont quitté la rue, il y va. Tout d'un coup, il est pris à l'épaule. Sursaute, se retourne. C'est une femme, habillée en arabe, avec des voiles blancs. Elle porte un voile d'or, doré. Voile est presque transparent. Le jour, l'on peut voir son visage. Il fait geste de s'enfuir et lui dit « Qui es-tu ? Qui es-tu ? » Il lui dit « Un soldat français. » Elle lui fait « Ah, viens avec moi, tu ne peux pas rester ici. » Prends la main, il se laisse guider. Elle lui dit « Ne parle pas. » Elle l'amène à la maison. Monte les escaliers jusqu'au premier.
Entre. C'est ma chambre. Elle a fermé la porte.
Elle lui demande. pourquoi es-tu là ? Je voulais vous espionner. Eh bien, tu vois. Tu t'appelles comment ? Didier. Et moi, je suis Jeanne. La célèbre Jeanne ? Oui, hélas. Et j'en ai marre de tout ça. De ces noirs, de ces intégristes, de ce fou de Genevois. Je ne rêve que de rentrer en France, de vivre libre, oui, libre. Et Paris, oh Paris. Elle se découvre, il est ébloui par sa beauté. Elle lui dit, j'en ai assez d'être l'esclave d'un fou, d'être entouré de bonnes femmes. J'en ai assez d'être le symbole de l'Occident, d'être rejeté par les uns les autres. Et ce fou qui m'a prise et se croit un espèce de pape musulman. Je veux simplement aimer qui je veux. Je ne rêve que de beaux blonds. Oh, mais tu es blond, il lui demande. Il faut vous en aller d'ici. Et peut-être que la guerre sera finie. Elle lui dit, la ville est grande et se trouve à l'extérieur comme dans un désert. Non, il faut que j'attende d'être libéré par vous. En attendant, je me morfonds ici. On me traite comme une concubine. J'en ai assez de tout ça. J'en ai assez de ces noirs. Je veux des petits blonds comme toi. Se sent gênée. Elle lui dit, tu es vraiment charmant, tu sais. Elle se penche son cou et l'embrasse. Puis lui dit, je vais te cacher et tu vivras avec moi. C'est impossible, il faut que je rentre. Et comment feras-tu? Toutes les issues sont fermées. Réfléchit, lui dit, je sortirai comme je suis rentré. Et comment as-tu fait pour rentrer? Je me suis caché sous un char. Et le sourit et l'embrasse. Viens, je vais te laver. Elle le mène à la salle de bain. Elle le déshabille. Il est tout gêné et en même temps ça lui fait des drôles de choses de sentir les mains sur son corps. Une fois qu'il a été lavé, elle le couche dans son lit. Elle en fait son amant, son petit bébé, qu'elle réussit à cacher, parce que dans sa chambre, personne ne peut y rentrer, même pas son mari, c'est elle qui va dans la chambre de son mari. Il reste enfermé dans la chambre. Il se fait porter des repas dans la chambre et demande bien copieux. Personne ne le sait. Il se cache dans un placard au milieu des robes, linge. Lorsque quelqu'un entre, ça finit par l'amuser cette chose. Et puis Jeanne est une belle femme qui aime beaucoup l'amour. Elle le dorlote comme un bébé. Finit par beaucoup aimer ça, même de se faire laver. Les jours passent. À son régiment, en ne le voyant pas revenir avec les autres, son commandant pense qu'il a dû disparaître. Ils attendent plusieurs jours et comme ils n'ont aucune trace de Didier, l'armée décide d'annoncer le décès à sa mère. Elle a reçu l'annonce du décès de son fils par télégramme. Et on lui dit que le corps de son fils est introuvable. Médaille militaire, costume. La mère effondrée va le dire à Minusi avec le télégramme. Mais l'usine, Minusine aussi, aimait et effondrée. Parce qu'elle aimait beaucoup ce petit Didier, presque comme un fils. Paris l'apprend aussi. Livre par Minusine et les autres par la presse. Boulieu est content de cette mort, mais aurait aimé se venger, tuer Didier pour faire du mal à Cliff. Cliff l'apprend par sa mère, il est effondré, comme un ami d'enfant de toujours. Ils se sont connus bébés. Le manoir apprend la nouvelle, veut être sûr de la mort de Didier. Il est très attentif à Didier, parce qu'il est proche de Cliff. Alors, il envoie des hommes en noir pour complètement d'enquête sur la disparition de Cliff. Ce sont, disons, de la police spéciale des hommes en noir. Ils vont en Afrique vers le régiment où était Cliff. C'est-à-dire près de la ville. Ce sont trois hommes, grands, minces, blonds, dans les 25 ans, habillés d'un costume noir. Ils interrogent les soldats. Petit à petit, on finit par reconstituer ce qui s'est passé. Ils ont appris que Didier s'est caché sous un char et que le char est entré dans la ville. Puis les soldats ne l'ont plus vu. Ils n'en ont pas parler de peur de nuire à Didier. Parce que Didier n'avait pas demandé l'autorisation de le faire. Ni n'en avait reçu l'ordre. Les hommes en noir décident d'entrer dans la ville et de voir. Et décident de faire la même chose que Didier pour y rentrer. Lorsque la bataille reprend, il s'engouffre dans la mêlée pour s'approcher de la ville. Mais comme ce sont des personnalités, ils sont très protégés par l'armée. Ils arrivent avec difficulté près de la ville. Voient les chars qui restent près de la ville pour la garder. Et dès qu'il le peut, se mettre sous les chars, comme Didier. La bataille fait rage. Il y a beaucoup de fumée et du bruit. Personne ne fait attention à eux. Une fois qu'ils se sont calés, chacun sous un char, il ne leur reste plus qu'à attendre. C'est long et pénible. Il fait chaud, la poussière, et ils ont soif. Après une longue journée, très longue journée et pénible, le bruit de la guerre s'atténue, la fumée aussi. Il y a le silence. Puis, les chars qui se mettent en route pour entrer dans la ville. Les chars se sont arrêtés. Il entend les soldats parler. Voient leurs jambes. Des pas. Ils se sont éloignés. Le silence. En faisant attention, ils sortent de leur char. Ils voient qu'ils sont sur une place. Maintenant, comment faire pour retrouver Didier? Ils se réunissent dans un coin noir. Le chef de l'expédition dit: il était pris, officiellement, on l'aurait su. On l'aurait parlé, à cause de son exécution. Donc, il doit être vivant, il doit se cacher. Mais où? Dans cette ville, où tous les gens sont extrémistes et anti-occidentaux, il n'y a peut-être qu'une personne qui pourrait l'aider, c'est Jeanne. Parce qu'elle est occidentale. Le soldat lui dit: oui, mais elle est passée de leur côté. C'est ce que l'on dit. Mais une Française reste une Française. Et vivre enfermée dans un RM, ça ne peut pas la satisfaire. Il faut aller la voir. Et comment? Nous avons les plans de la ville. Nous allons aller chez elle et lui demander de l'aide. Il sort de sa poche un papier et une lampe de poche. Regarde, voilà. Ils regardent tous. Devant aller de ce côté. Ils prennent tous la petite rue qu'a pris Olivier de Didier. Devant la propriété, il faut passer le mur. Ils enlèvent de leur taille une corde qui a au bout un crochet et lance la corde pour qu'elle puisse s'accrocher au-dessus du mur. Il monte et saute le mur. Une fois arrivé au jardin, ils vont jusqu'à la maison. Mais il y a un garde vers la porte. Il se cache derrière les fourrés et un garde jette une pierre à terre. Le soldat, intrigué, va voir, se penche. Et le soldat est pris par derrière, étranglé. Et il court vers la porte qui n'est pas fermée à clé et entre dans la maison. Monte à l'étage. Arrivé à l'étage, il y a plusieurs portes. Il ne faut pas se tromper. Il marche en essayant de faire le moins de bruit possible. Il essaye de savoir quelle est celle qui est la bonne. En mettant l'oreille contre la porte. Le chef a entendu chanter en français. Il fait signe à ses hommes. C'est ici.
Frappe à la porte.
Une voix de femme demande. Qui est-ce? Le chef dit en arabe. Quelque chose pour vous. Elle dit.
Attendez un instant.
Il attend. Puis.
La porte s'est ouverte.
C'est John. Et il est surpris de voir trois hommes blonds habillés de noir. De peur, elle fait le geste de refermer la porte. L'homme la tient, lui dit.
Nous sommes des amis. Nous voulons vous parler.
Elle les laisse entrer. Et demande,
que voulez-vous?
Nous aimerions savoir des nouvelles de Didier Dupin et le ramener chez lui. Nous ne voulons rien faire contre vous.
Didier, s'il est ici, il doit être très bien ici. Il n'a peut-être pas envie de vous suivre.
Madame, sa famille est très émue.
avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.